Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline. Avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver sur le pont de notre cargo Radio Caroline, sillonnant pour un nouveau voyage les années 6. Après encore deux étapes en 1976, en Californie notamment, nous voguerons cette fois au fil de 1986, entre une nouvelle révolution russe, au goût de glasnost et de perestroïka, mais secouée par la catastrophe de Tchernobyl, et dans un tout autre genre, l'apparition d'un rival fatal à la mythique collection de polar série noire, les éditions Rivage Noir, qui fêtent aujourd'hui leurs 40 ans, emmenés à leur début par les auteurs devenus iconiques James Ellroy, Robin Cook et quelques autres. Un univers a priori très mal et qui pourtant nous donnera l'occasion d'évoquer les femmes du roman noir et pas celles qu'on imagine. En 1976, outre-Atlantique, on fêtait donc le bicentenaire des États-Unis d'Amérique. À cette occasion, la RTBF avait réalisé une série de longs reportages pour capter l'âme de l'Amérique moderne sous ses différents aspects. Retrouvons en 76 à Los Angeles le journaliste Philippe Dasnois sur la place passager d'une grosse voiture américaine, impressionné voire effrayé par les larges autoroutes s'entrelaçant autour de Los Angeles, avant qu'il n'aborde les nouvelles pratiques en vogue à l'époque en Californie qui ne tarderont pas à arriver chez nous, qu'elles soient sportives, écologiques ou spirituelles.
Je suppose que les gens qui vivent comme ça dans un univers de routes, d'autoroutes, de béton doivent avoir un comportement parfois, peut-être une certaine révolte.
C'est possible, et peut-être pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y habituent, comme à n'importe où. Hein. Ils sont là sur l'autoroute, ils vont à leur travail chaque jour, ils retournent le soir, et ça leur est tout à fait naturel au bout d'un moment. Ils oublient l'autoroute, ils oublient l'existence de cette vie.
Vous n'avez pas de temps en temps envie de vous déplacer en skateboarding, par exemple?
Skateboarding, oui, justement, il y a plein de gens qui vont en skateboarding. Là, ça, c'est une façon de s'échapper à l'autoroute, peut-être. Aborder le béton d'une autre manière.
Le skateboarding est né dans les quartiers populaires de Los Angeles comme une sorte de substitut au noble sport du surfing. Le béton remplace la mer et les roulettes, le déferlement de la vague. Le skateboarding participe donc à ce culte californien qu'est le surfing. D'un côté l'océan, de l'autre le désert. Les deux horizons d'une société avide d'expériences extrêmes. Échapper à la ville, c'est nécessairement entrer dans le désert. Il est partout, il est immense, et pourtant il n'est pas facile d'y trouver la solitude, même si les parcs nationaux ont créé des oasis de nature protégées des méfaits de la civilisation.
Oui, c'est peut-être vrai, oui. C'est l'expansion de la population, il n'y a rien à faire. Des gens qui sont jeunes, ils aiment bien la nature, mais quand ils ont leur famille et leur travail et tout ça, ils aiment bien acheter des voitures et venir camper dans des parcs ou aller détruire la nature comme tous les autres. On a vu ça, des gens des années 60, maintenant, sont des gens plus responsables, qui ont le travail, et bon, voilà, ils font exactement comme les gens avant. Alors, il n'y a pas beaucoup d'espoir là-dedans.
Mais pour vous, par exemple, quand vous avez envie de vous échapper, c'est ça, c'est le recours aux parcs nationaux.
Oui, justement, oui. Ici, c'est un parc où il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas tellement de gens qui viennent ici, mais je ne sais pas dans 10 ans ce que ça va être.
Il y a le mythe californien, mais c'est un mythe vécu. Ici s'arrête la marche vers l'ouest, c'est la fin de l'aventure, le pays de la dernière chance. Si l'on n'a pas trouvé son bonheur ailleurs, il faudra bien qu'on le trouve ici. Et si on ne le trouve pas, eh bien, on le fabriquera, avec le soleil, avec l'illusion de la liberté, les expériences les plus insensées, la drogue, l'argent ou le talent. Et cela donne Hollywood, Beverly Hills, la Good Life, le paradis sur Terre, pour quelques-uns et pour quelques temps. Mais elle existe, cette fabrique du rêve, un peu effrayante comme toutes les fabriques.
Est-ce que les Américains de votre génération ont encore cette foi aveugle dans les progrès de la technologie? Est-ce que vous, par exemple, vous pensez que cette exploration des mondes qui nous entourent est quelque chose de très important par rapport à ce qu'il y aurait à faire sur la Terre, par exemple?
Oui, mais l'exploration des mondes est très intéressante en soi, mais je pense que maintenant, beaucoup de gens veulent quand même résoudre les problèmes qui leur sont propres avant de s'en aller sur des autres planètes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici sur Terre et les gens sont quand même plus intéressés par ces choses-là à l'heure actuelle.
Il y a une chose très, très étrange que l'on constate en Californie, c'est à la fois, disons, l'état le plus avancé en ce qui concerne les technologies de pointe et la conquête spatiale, disons. Et d'autre part, c'est également l'état où on voit surgir les formes religieuses et de irrationnelles, et parfois les plus surprenantes et les plus exotiques, avec le foisonnement le plus inattendu. Ça me paraît assez paradoxal.
Oui, c'est un paradoxe d'ailleurs qui est rentré dans la tradition américaine. Ça existait de tout temps. Même en Nouvelle-Angleterre, à l'époque de Thoreau, par exemple, il y avait d'un côté la technologie de pointe pour cette époque, et de l'autre côté, il y avait des gens qui faisaient toutes sortes d'expériences religieuses, qui cherchaient des utopies des plus diverses. Et la même chose s'est transplantée en Californie à l'époque actuelle, mais d'une façon bien sûr plus moderne. Et...
Ce genre de cérémonie se déroule dans votre living room tous les jours?
C'est-à-dire que nous avons des réunions comme ça, avec tant de gens, à peu près 3 fois par semaine. Il y a d'autres réunions aussi, où on fait des projets pour la semaine, où on étudie ensemble. Des choses comme ça, simplement se réunir pour réciter Nam-myoho Renge Kyo sans avoir une discussion après.
Tout autre chose en 1976, des décennies avant les caméras de nos smartphones, les caméras télé se font plus légères, plus petites et sortent de l'univers purement professionnel pour être manipulées par le plus grand nombre, susciter les rencontres ou produire un art nouveau. Et c'est dans ce but que cette année-là, en 1976, l'ULB organise une journée d'animation vidéo.
Et tu élargis sur Champs-Lumière et puis tu descends doucement sur Betty.
Il doit quand même être assez...
Oui, mais après ça, le zoom. Tu mets le zoom à fond et tu règles la netteté. Celle-ci là-bas.
Qu'est-ce que c'est cet exercice de prise de vue?
Ceci, c'est une journée d'animation vidéo sur le campus de l'Université libre de Bruxelles. On prête du matériel de vidéo légère à des étudiants, à des gens de la communauté universitaire, à des gens extérieurs à l'université, qui viennent nous emprunter du matériel et qui peuvent faire quelques petites séquences à l'extérieur. Ils ont l'occasion d'emprunter le matériel pour quelques temps, de rentrer dans nos locaux, avoir une table de montage à leur disposition. Ils peuvent monter leurs séquences, les revisionner après. Nous faisons une animation toute la journée aujourd'hui.
Ce n'est pas vraiment neuf. Les télévisions traditionnelles et officielles procédaient déjà de la même façon avec des caméras, des magnétoscopes et des écrans. Alors qu'est-ce qui est nouveau?
Ce qui est nouveau, c'est la miniaturisation. C'est la télévision à la portée de tous.
La vidéo, à l'usage de tous, pour n'être pas vraiment neuve dans ses moyens, est néanmoins nouvelle dans les buts qu'elle poursuit. Elle vise par exemple au témoignage. Ainsi, parmi 45 autres programmes, celui qui présente la vie d'un clochard, raconté par lui-même. Elle vise également leur portage. On peut voir un programme sur les marolles. Elle vise aussi l'éducation permanente. Des écrans ont montré un accouchement, sa préparation, ses suites. Autre aspect, celui de l'art que la vidéo tente également d'approcher par la recherche d'effets visuels qu'on pourrait comparer aux effets sonores de la musique synthétique. Le terme vidéo s'associe volontiers à celui de l'animation. La vidéo-animation, c'est, par l'image, une manière nouvelle d'exprimer la communication entre les individus qui peuvent se voir, s'entendre, ainsi mieux se comprendre eux-mêmes et mieux comprendre les autres. Il ne manque qu'une dimension à cette recherche nouvelle, la dimension que peut conférer le câble de la télédistribution.
1986, c'est incontestablement l'année d'une nouvelle révolution russe, amorcée par Mikhail Gorbatchev, lequel dirige l'URSS depuis quelques mois, depuis mars 1985. Gorbatchev sera le premier à parler de la nécessité de réformer profondément ce qui s'appelle encore l'Union soviétique. Et cette réforme passera par la perestroïka, nom donné aux réformes économiques mais aussi sociales, et par la fameuse glasnost, la transparence. une glasnost grâce à laquelle il est désormais possible, autorisé, d'évoquer les événements historiques que le pouvoir taisait jusque-là, comme les grandes purges de Staline. La glasnost va aussi permettre les manifestations, les grèves et une presse enfin libre. Libre de dire vrai, d'ouvrir le dialogue, d'introduire la contradiction, la critique, comme l'ont alors constaté sur place des journalistes de la télévision suisse.
Dans le nouveau climat, la presse est en effet un des fers de lance de la politique de transparence. Autrefois ennuyeux, se limitant à reproduire les déclarations officielles, les journaux sont aujourd'hui plus audacieux. Preuve de cette évolution, la plupart des journaux ont vu leur tirage augmenter et certains magazines, comme la Gazette littéraire ou Ogoniok, s'arrachent dans les kiosques dès leur parution. Si le rôle de la presse était autrefois de glorifier les succès du régime, maintenant, elle s'intéresse aussi à ce qui va mal. On a vu apparaître des rubriques sur des faits divers ainsi que des autocritiques sur des mauvais fonctionnements de la société. Est-ce que la langue de bois a complètement disparu de la presse soviétique ?
Non. Il nous faut des journalistes qui apprennent à parler différemment. C'est un processus très lent et très difficile. Nous avons encore beaucoup trop de gens qui non seulement ne savent pas écrire dans un autre langage, mais qui en plus ne savent pas lire un autre langage. Et si l'on publie la vérité dans un langage différent, ils ne la comprendront pas. Je pense qu'il va falloir éduquer le public. Et je crois qu'on finira par y arriver. C'est en tout cas ce que j'essaie de faire à Ogoniok.
Korotitch est à la tête d'Ogoniok depuis un an. D'un journal insipide, il en a fait un magazine d'enquête, d'investigation.
Quand je suis arrivé au journal, je leur ai dit, on n'est pas là pour faire une équipe de foot, mais une vraie rédaction. Je pense que les journalistes ne doivent plus avoir peur ni de menaces voilées, ni de menaces directes. Et pour l'instant, je n'ai ressenti aucune menace venant de la part de Gorbatchev.
Une bouffée d'oxygène salvatrice que cette glasnost qui, par la diffusion des idées, participera à l'effondrement du système de contrôle du pouvoir et à l'effondrement de l'Union soviétique elle-même. Aidée en cela, il faut bien le dire, par les ratés de la perestroïka qui, sur le plan économique, ne réussira pas. Et comme il est désormais possible de s'opposer, on s'opposera, notamment dans les républiques satellites, alors sous la coupe de l'URSS, mais qui vont bientôt prendre leur autonomie. C'est dans cette ère renouvelée que s'entamera aussi en 1986 le dégel des relations Est-Ouest et le début de la fin de la guerre froide. Un climat qui avait déjà un peu changé à la fin de l'année 85 avec la première rencontre entre le président américain républicain Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev, comme nous le raconte dans le JT de 19h30 du 21 novembre 1985, Françoise Van Mortel et Claude Van Engelen.
Nouvel attentat CCC cet après-midi à Bruxelles. Genève, le sommet relance la coexistence pacifique. Ronald Reagan vient rendre compte à ses alliés de l'OTAN. Football, une défaite victorieuse des Belges contre la Hollande. Mesdames et messieurs, bonsoir. À Genève, les deux hommes politiques les plus puissants de la planète se sont donc rencontrés pour la première fois, se sont parlé et se sont jaugés. Nous nous sommes regardés les yeux dans les yeux, a déclaré Mikhail Gorbatchev. Nous avons eu des contacts amicaux, dit de son côté Ronald Reagan. Mais il ajoute qu'il faudra peut-être des mois et même des années pour juger des vrais résultats de ce sommet de Genève. En effet, concrètement, la rencontre n'a pas amené de décision spectaculaire, mais l'optimisme est de rigueur. Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan se sont promis de se revoir. Un nouveau sommet est prévu à Washington en juin prochain et un autre à Moscou l'année suivante. Claude Van Engelen, vous rentrez de Genève, vous vous trouviez parmi cette foule immense de journalistes. Alors, le moment était historique, mais est-ce qu'on n'est quand même pas un tout petit peu déçu par le résultat? Beaucoup de sourires, de poignées de main, pas grand-chose de concret.
Et finalement, ce qui est assez fascinant, c'est que pendant 2 jours à Genève, on a passé son temps à dire « on ne sait rien, on ne nous dit rien et on n'a pas d'informations ». Et en fait, maintenant que l'on sait ce dont on a discuté à Genève et que l'on connaît le communiqué final, on se rend compte que finalement, la principale information de Genève, c'était les images que nous avons vues pendant 2 jours, c'est-à-dire les images de 2 hommes se serrant la main, de 2 hommes qui parlaient ensemble, des 2 premières dames qui buvaient le thé ensemble. Et les images, finalement, témoignent d'un climat qui a semblé-t-il était beaucoup plus important que le contenu même des discussions. Il est important de savoir maintenant que M. Reagan ne dit plus l'Union soviétique que c'est l'empire du mal et que M. Gorbatchev ne compare plus M. Reagan à Hitler. Alors, le deuxième élément important de Genève, c'est la confirmation de la nouvelle tendance de la diplomatie soviétique. On avait déjà vu ça à Paris lors de la visite de M. Gorbatchev. Les soviétiques sont de plus en plus ouverts. À Genève, il y avait plein d'attachés de presse soviétiques qui ont vraiment essayé de faire, je dirais presque de la retape, de parler aux journalistes occidentaux et de les convaincre de faire des interviews de leurs spécialistes. C'est vraiment un nouveau look soviétique.
Et des jolies filles, m'avez-vous dit?
Oui, oui, il y avait même des jolies filles parmi la délégation. Enfin, disons qu'ils ont un nouveau look, vraiment.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Paradoxalement, le dramatique accident nucléaire survenu à Tchernobyl dans la nuit du 25 au 26 avril 1986 agira comme un accélérateur de cette glasnost. Car dès les premières heures qui suivent l'explosion, la communication s'avère défaillante, voire opaque. Mikhail Gorbatchev, chef de l'Union soviétique, n'est lui-même informé officiellement de la catastrophe que le lendemain, 27 avril. Au niveau inférieur, les vieux réflexes de la désinformation ou de l'atténuation sont encore en vigueur, mais plus pour longtemps, ce dont on se rend compte en suivant le JT de Jacques Brédal du 28 avril 1986.
Et précisément cette actualité ce soir, c'est un accident nucléaire. Il s'est produit en Ukraine, une des républiques du RSS, très précisément à la centrale de Tchernobyl. L'agence TASS, qui n'est pourtant pas coutumière de ce genre d'informations, a annoncé ce soir officiellement qu'un des réacteurs de cette centrale, une des plus grosses du monde avec ses 3000 mégawatts, a été endommagé. L'agence a même fait état de soins prodigués aux victimes, ce qui laisse supposer qu'il y a eu des blessés. Il est exceptionnel qu'un accident ou une catastrophe soit annoncé en Union soviétique, alors qu'il vient de se produire en tout cas. Et celui-ci doit être sérieux, puisque même la télévision soviétique en a fait état dans son journal télévisé de ce soir. Toujours est-il qu'une hausse brutale de la radioactivité a été détectée dans les pays scandinaves. Comme le montrent ces images, qui nous sont arrivées d'Helsinki, en Finlande, les appareils de mesure ont enregistré un taux de radioactivité 6 fois supérieur à la normale. Le nuage radioactif porté par les vents d'Est vient pourtant de plus de 1000 km de là. L'alerte avait en fait été donnée par la Suède. Quand un ouvrier de la centrale nucléaire suédoise de Forsmark, dont vous voyez ici une image, avait déclenché le signal d'alarme en passant un contrôle de radioactivité de routine. Les autorités suédoises avaient déjà pris de sévères mesures de sécurité au moment où on s'est rendu compte que la fuite ne provenait pas de chez eux.
18 jours plus tard, le 14 mai 1986, dans une volonté de transparence politique, Gorbatchev reconnaîtra lors d'une allocution télévisée l'ampleur de la catastrophe et les profonds dysfonctionnements dans la communication et la gestion de l'accident nucléaire. Pour rappel, le gigantesque incendie provoqué par l'explosion ne sera contenu qu'après 1 semaine par des pompiers dépourvus de protection ou d'équipements particuliers. Une zone d'exclusion de 10 puis 30 km autour de la centrale sera décrétée, espace qui demeure encore largement inhabité aujourd'hui, en tout cas par les humains. Au total, 350 000 personnes seront évacuées dans les mois qui suivent l'explosion. Et pendant ce temps, près de 600 000 ouvriers venus d'Ukraine, de Biélorussie, de Lettonie, d'Estonie et de Russie, surnommés les liquidateurs, nettoieront et décontamineront les zones radioactives. Un sarcophage étant par ailleurs construit autour du réacteur pour limiter les rejets de radioactivité dans l'environnement. Un second sera édifié en 2019. Officiellement, 31 personnes sont mortes immédiatement après l'accident, principalement des travailleurs et des pompiers exposés à des doses létales de radiation. Selon Selon un rapport de l'ONU de 2005, une cinquantaine de décès peuvent être directement attribués à l'accident, avec une estimation de 4000 décès supplémentaires potentiels dus à l'exposition aux radiations. La Glasnost, elle, poursuivra son œuvre, rendant l'URSS à nouveau vivable, fréquentable pour ceux qui avaient pu la fuir. Alain de Strel et Nicole Couvreur dans le JT du 29 décembre 1986.
Des émigrés soviétiques sentent ce changement et risquent de rentrer chez eux. Une cinquantaine de soviétiques établis aux États-Unis depuis plusieurs années et qui ne se sont pas adaptés au mode de vie américain ont pris l'avion pour Moscou. Ce n'est pas la première fois que des émigrés rentrent en URSS, mais c'est la première fois qu'il y en a autant à la fois.
Leur bagage, des caisses bourrées d'appareils électroniques et de vêtements made in New York. Parmi ces 50 émigrés soviétiques qui ont décidé de rentrer chez eux, des chauffeurs de taxi, des médecins, des musiciens. Leur point commun, le mal du pays. La nostalgie de la terre natale a certainement été pour eux tous la première raison de repasser à l'Est. Cette mère de famille déclare « J'ai trois enfants, je veux leur donner le sens de la patrie ». Il faut y ajouter la difficulté de s'adapter au mode de vie américain où l'esprit de compétition et le bon salaire figurent au premier rang des préoccupations. Dans ce groupe, certains habitaient les États-Unis depuis 8 ans et avaient obtenu la nationalité américaine. Quelques-uns laissent derrière eux des membres de leur famille encore adolescents à leur arrivée en Amérique et qui se sont mieux adaptés que leurs parents à la vie outre-Atlantique.
Ces émigrés ne se trompent sans doute pas en espérant une libéralisation du régime soviétique. Témoin, Andrei Sakharov, qui à peine rentré d'exil, accorde des interviews à la presse et aux télévisions occidentales en toute liberté et sans aucune censure.
Tout autre chose à présent. Nous consacrions il y a quelques mois un épisode au polar et au néopolar, dont les intrigues sont, dès les années 80, imbibées des soubresauts de la société. Et à cette occasion, nous racontions l'histoire de la fameuse série noire créée par Gallimard en 1945. Une série noire qui, dès la fin des années 70, a perdu de sa superbe. D'abord à cause du regain d'intérêt pour les romans de science-fiction, puis avec l'apparition d'un concurrent de qualité au milieu des années 80, la collection Rivage Noir, créé par François Guérif au printemps 1986, il y a 40 ans donc, au sein de la jeune maison d'édition Rivage. Et notre homme, François Guérif, s'y connaît, puisque s'il a été tour à tour libraire, journaliste, éditeur, directeur de revue, c'est également lui qui, en 1973, a ouvert la première librairie parisienne spécialisée dans le roman policier, avant de lancer 5 ans plus tard une première et éphémère collection dédiée au genre Red Label, puis une revue titrée Polar. Deux éditeurs, dont Fayard, feront ensuite appel à lui pour lancer des collections de romans policiers qui feront long feu, Guérif étant au final peu soutenu par ceux qui l'ont engagé, avant que notre ami ne soit sollicité par le patron des jeunes éditions Rivage pour lancer Rivage Noir. Et cette fois, ça va marcher. Grâce, bien sûr, à sa grande connaissance de cet univers et de ses auteurs, américains notamment, mais aussi, il faut bien le dire, grâce à l'emballage, la maquette de la couverture de Rivage Noir, totalement novatrice et élaborée par Jacqueline Guiraman. Un sobre lettrage bâton, des titres dans des cartouches sur fond blanc et des couvertures aux photos intrigantes. Sans oublier la texture de ces couvertures mates et grainées qui perdurera jusqu'à ce que le papetier cesse de fabriquer ce type de papier. Liberté sous condition de Jim Thompson sera le premier tome de ce que Guérif conçoit comme une collection de poches pour qu'elle soit accessible à toutes les bourses. Laquelle va véritablement décoller en 87 quand paraît le 27e titre de Rivage Noir, Lune sanglante de James Ellroy, encensé dans le journal Libération par un auteur de néopolar très prisé dont nous avions raconté le parcours, Jean-Patrick Manchette. Les ventes s'envolent et par un effet d'entraînement et l'entremise de James Ellroy, de nombreux auteurs américains, oubliés ou mal traduits par la série noire de Gallimard, se retrouvent chez Rivage. « On me dit parfois que je fais un travail de spécialiste », dira Guérif. « Mais c'est le lecteur qui est devenu spécialiste. Il ne veut pas qu'on lui refile n'importe quoi. Il a déjà tout ça à la télé. On a trop privilégié la notion de genre au détriment de la notion d'auteur. Ce qui m'intéresse, c'est la voix, l'écriture. » Celle, par exemple, de Charles Wilford, James Lee Burke, Edward Bunker, Donald Westlake ou Robin Cook, mais aussi d'auteurs italiens, japonais, mexicains, écossais, australiens, hollandais, cubains, français, bien sûr, Hugues Pagan ou Hervé Lecor, sans oublier l'autrice canadienne André Michaud, dont Rivage Noir vient de publier le terrifiant Baignade, serti d'expressions québécoise. Il faut s'accrocher parfois, je vous l'assure. Mais c'est absolument savoureux. Au fait, comme pour la série noire, de très nombreux polars publiés par Rivage Noir seront adaptés au cinéma. L'un des meilleurs étant sans nul doute L.A. Confidential de James Ellroy. Curtis Hanson en fera un film redoutable en 1997 avec Russell Crowe, Guy Pearce, Kevin Spacey, Kim Basinger et James Cromwell.
Why was Susan Leffert at the Night Owl?
I don't know. I never heard of the Night Owl till today.
How about some payback, big time?
We need evidence.
I'll get the evidence.
It was an information exchange.
You have any proof?
The proof had his throat slit.
What do you want, actually?
I just want to solve this thing.
Even if it means paying the consequences.
Au fait, et les femmes dans l'histoire du roman noir, donc bien avant Fred Vargas, Dominique Manotti, Barbara Bel, Michel Pedignelli et bien d'autres, et bien sur ce sujet, Natacha Levet et Benoît Tadier, chercheuses et chercheurs et spécialistes de la discipline, ont récemment publié chez Gallimard « Les femmes de la série noire », livre consacré aux trois premières décennies de la collection « Série noire », celle gouvernée entre 1945 et 1977 par son fondateur Marcel Duhamel. Alors attention, quand on dit « Les femmes de la série noire », on ne parle pas tant des autrices, puisque sur les 1722 romans que publiera la collection entre 1945 et 1977, seuls 42 ont été écrits par des femmes. Au départ, les Américaines Lee Brackett, Dolores Hitchens, Marty Holland ou Gertrude Walker. Non, les femmes de la série noire dont il est question sont celles qui, dans l'ombre, ont œuvré au succès de cette collection. Car dès l'origine, elles sont à l'œuvre dans tous les secteurs autour du patron. Déjà, comme 60 ans plus tard pour Rivage Noir dont on a parlé, c'est à une femme, Germaine Gibard, que l'on doit la maquette de la série noire. Cette fameuse couverture noire à liseré blanc rehaussée d'un titre en jaune. De même, les agents littéraires qui proposent des textes américains à la collection sont souvent des agents teux. Mais surtout, l'équipe qui seconde Marcel Duhamel est largement polyvalente et féminine donc, passant du secrétariat à la lecture des manuscrits, à la traduction ou encore au rewriting des textes. Au sujet des traductrices, par exemple, on apprend que quasi deux fois moins nombreuses que les hommes durant cette période, elles traduiront au final presque autant d'œuvres qu'eux. Qui plus est, les femmes de la série noire ne manqueront pas d'esprit d'initiative. Comme Minnie Danza, qui, quand la traduction qu'on soumet à son travail de correction lui semble médiocre, ne se prive pas de retravailler entièrement le livre et d'en co-signer la traduction sous le pseudonyme de Raoul Amblard. Vous avez encore Jeanne Huita, une script dont l'anglais appris sur les plateaux de cinéma s'avère très moyen, mais qui n'hésite pas à lancer un auteur américain de passage à Paris, Horace McCoy, à propos d'un de ses livres. « Oh, Mr. McCoy, that Freudian rubbish, we cut it. » Non, tout ce fatras freudien, on l'a bien évidemment coupé. Janine Hérisson, qui, elle, travaille avec son mari Henri Robillot, élagra près d'un tiers du long goodbye du pourtant fameux Raymond Chandler. Fallait oser. Et si les femmes de la série noire sont chargées de réécrire et de couper allègrement dans les textes originaux, ce contre quoi Rivage Noir œuvrera en repartant des textes américains pour leur offrir une traduction nouvelle et soignée, eh bien c'est que tous les romans doivent avoir la même taille et ne pas excéder 256 pages pour trouver leur place sur les tourniquets des points de vente. De même que la narration doit privilégier une oralité marquée par l'argot parisien de l'époque, même s'il s'agit encore une fois de situations et d'intrigues américaines. Une dernière chose, depuis 2017, c'est une femme qui, pour la première fois dans l'histoire de la collection, dirige la série noire. Tout cela et bien d'autres anecdotes, c'est dans Les femmes de la série noire que viennent de publier Natacha Levet et Benoît Tadier chez Gallimard. Notre voyage à travers les années 76 et 86 se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, apprécié, goûté, n'hésitez pas à le partager, à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.